avant Noël. C'est correct, ça? Genèse chapitre 12. Noël s'en vient. Et pour moi, Noël, c'est l'occasion de se rappeler que notre foi n'est pas seulement une foi individuelle et personnelle. Au quotidien, lorsque je me lève le lundi matin, puis je commence ma semaine, tout ça, il y a ma Bible, Dieu, moi, puis toutes mes responsabilités. Et à quelque part, ma foi devient quelque chose de très individuel. Dans ma réalité quotidienne, c'est « OK, Seigneur, une autre journée, on passe à travers, on va te rendre grâce, puis on va avancer ensemble. » Noël, je trouve que c'est une opportunité pour nous de réaliser encore une fois que cette foi personnelle que j'ai, individuelle qui est la mienne, s'inscrit en réalité dans des plans, dans des desseins éternels de Dieu qui ont commencé des siècles et des millénaires dans le passé et qui vont nous transporter jusque dans l'éternité. Et ce matin, on va faire un survol en commençant par Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour placer l'histoire de Noël. C'est bon? On va se courber ensemble dans un mot de prière. Éternel mon Dieu, tu es mon plus précieux trésor. Tu es toute ma vie. En toi, Seigneur, je trouve la force de vivre chaque jour. En toi, je trouve mon plus profond bonheur, mes plus grandes joies, toute mon espérance. Tu es entré dans mon histoire personnelle, Seigneur, en venant me faire connaître ton Fils Jésus-Christ, et tu m'as fait entrer dans ton histoire à toi, Seigneur, écrite depuis des desseins éternels. Je te prie de venir nous éclairer ce matin, nous aider à comprendre un peu plus ta parole, comprendre un peu plus, Seigneur, ton plan glorieux. Viens affermir notre foi, Seigneur, en nous aidant à réaliser ce matin, encore une fois, Seigneur, combien tes desseins sont grands. Tu es Dieu et c'est toi qui conçois toutes choses. C'est toi qui conçois des plans merveilleux, Seigneur, et tes plans s'accomplissent, tes promesses s'accomplissent, Seigneur. Aide-nous à trouver dans notre cœur notre place dans ton histoire, oh Dieu, et nous réjouir de participer à ton histoire, à l'histoire de ta gloire, de ta grâce à la croix, Seigneur, et de tout ce que tu as voulu pour cette humanité. Ma prière, Seigneur, c'est aussi pour toute personne ici ce matin qui serait en train de découvrir la foi chrétienne, qui serait en train de l'explorer. Je te prie, Père, de me donner tes mots, de me donner une clarté dans ma communication, Seigneur, pour introduire toute cette question de la prophétie qui annonçait ta venue et tout ce que cela peut impliquer de tellement plus grand même encore, Seigneur. Viens nous éclairer sur le sens de Noël, Seigneur, afin qu'on puisse vraiment t'adorer cette année autour de cette fête. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Ce matin, on va parler de prophétie, d'accord? Il y a plein de prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient la venue de Jésus. La prophétie, c'est un sujet qui est à la fois fascinant, puis en même temps, des fois inquiétant, troublant. Il y a toutes sortes de livres dans le monde qui se réclament à être des livres prophétiques. Et donc, si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez regarder la prophétie biblique, la prophétie qu'on trouve dans la Bible, comme une autre de ces affaires-là. Mais en même temps, lorsqu'on prend le temps de commencer à lire la Bible d'un couvert à l'autre et commencer à étudier toute la question de la prophétie, à un certain moment donné, tout au moins, il y a de profondes questions qui sont soulevées dans notre esprit. Et dans la mesure où dans la mesure où on commence à ouvrir nos yeux sur ce texte-là, où Dieu commence à parler à notre cœur, il y a une fascination qui se développe en nous, un émerveillement de voir combien Dieu est puissant pour avoir conduit, inspiré la rédaction de ce livre-là à travers tant d'auteurs différents, avoir annoncé des choses qui allaient venir. Et puis les années passent, une fois que je suis devenu chrétien, que je commence à étudier les Écritures, les années passent, et plus les années passent, plus je découvre la beauté du plan de Dieu. Et combien Dieu savait ce qu'il faisait à chaque tournant, à chaque détour dans l'histoire de l'humanité. Cette histoire-là n'est pas terminée, mais ce matin, on va aller voir une promesse qui avait été donnée à un vieux juif qui est décédé il y a des millénaires, une promesse qui lui avait été donnée. On va voir comment la naissance de Jésus-Christ s'inscrit dans cette promesse-là et comment cette promesse-là nous pointe encore vers l'avenir, remplit notre cœur d'espoir pour l'avenir, pour tous ceux qui ont placé leur foi dans la parole de Dieu et dans ses promesses. Alors, on est dans Genèse 12, les versets 1 à 3. Je vais vous lire un passage, après ça je vais faire quelques commentaires avant de commencer à survoler avec vous comment cette promesse, cette prophétie s'est accomplie progressivement et est en train de s'accomplir. Dieu parle à Abraham. Abraham est l'ami de Dieu. Abraham a décidé de marcher avec Dieu et Dieu se révèle à lui de manière absolument surnaturelle. Dieu ne l'a jamais fait avec moi personnellement de cette manière-là. J'ai jamais entendu la voix de Dieu, quoique je crois que c'est possible que ça se produise encore aujourd'hui. Mais disons que ça n'arrive pas à tout le monde et ça ne m'est pas arrivé. L'Éternel dit à Abraham dans Genèse 12, verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et là, l'Éternel Dieu donne une promesse à Abraham. Il lui dit, « Voici ce que j'attends de toi et voici ce que je vais faire pour toi. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Bon, pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, on a lu ça je ne sais pas combien de fois, on perd ça de vue, mais quelle promesse! Imagine un bon matin que Dieu t'apparaît et il te fait une promesse comme celle-là. OK, Bill Gates a une certaine étendue avec son commerce, tout ça, mais c'est plus que ça, là. C'est plus gros que tu vas prospérer comme Bill Gates. En toi, Abraham, toutes les nations de la terre vont être bénies. C'est énorme comme promesse qui a été donnée ici à Abraham. Ce matin, on va voir quelque chose concernant la prophétie. Pour plusieurs d'entre vous, ça va peut-être être nouveau et ça va peut-être, j'espère, éclairer votre lecture des Écritures dans les années à venir. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, un aspect de la prophétie qu'on voit, c'est que une prophétie que Dieu a donnée, une promesse que Dieu a faite, promesse, prophétie, quand Dieu promet quelque chose, il annonce ce qui va se passer. Moi, je peux vous promettre que je vais être là demain matin. Ça se peut que j'y sois, ça se peut que j'y sois pas. Mais quand Dieu promet, par exemple, oh, il annonce. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, une des dimensions de la prophétie, c'est qu'on voit pour certaines prophéties qu'elles vont avoir un accomplissement multiple. D'accord? Elles vont s'accomplir. Dieu annonce quelque chose. Elles vont s'accomplir et elles vont avoir un accomplissement multiple ou progressif, on pourrait dire. Et donc, Dieu promet quelque chose, ça semble se réaliser, mais en réalité, ce qui est en train de se produire là pointe vers un plus grand accomplissement encore de cette prophétie-là. Comme une pierre que je lance à la surface de l'eau, puis qui va rebondir comme ça, d'accord? Mais dans ce cas-là, elle ne perd pas de sa vitesse, elle prend de la vitesse. Elle perd pas de son efficacité, elle prend de l'efficacité. Et donc, chacune de ces étapes dans l'accomplissement de cette promesse, de cette prophétie, annonce un plus grand accomplissement encore à venir. Ce sont des prophéties qu'on pourrait dire progressives ou à accomplissement multiple. Je sais que c'est technique, vous allez le voir avec moi dans le texte ensemble. Une prophétie qui s'accomplit partiellement, pointant toujours vers un accomplissement plus grand, plus complet. Et même lorsqu'elle est accomplie, elle pointe encore vers l'avenir, vers quelque chose de plus grandiose encore. Dieu donne cette promesse, il fait cette prophétie, je pourrais dire, à Abraham. Il dit « Je ferai de toi une grande nation ». Comment est-ce que cette prophétie-là a commencé à s'accomplir? Bien, premièrement, avec la naissance d'Isaac, n'est-ce pas? Le simple fait que Abraham, qui avait 100 ans, et Sarah, qui avait 90 ans, ont eu un fils, Isaac. Déjà, c'est quelque chose de particulier. Ça prenait une intervention divine pour que notre cher Abraham de 100 ans et Sarah de 90 ans aient un fils. La promesse que Dieu a donnée à Abraham a commencé à s'accomplir à ce moment-là. Il n'y aurait pas eu de descendance sans cela. Maintenant, on s'entend, on est loin d'une grande nation. D'accord? On a un fils, on commence. On commence à peine à voir l'accomplissement de cette prophétie. On trouve ça dans Genèse 21, les versets 1 à 8, pour ceux qui désireront aller lire ça un petit peu plus tard. Ensuite de ça, un peu plus loin, dans Exode, on lit dans Exode 1, 5, que Jacob, le fils d'Isaac, avec sa famille, était rendu à 70 personnes. D'accord? Au moment où ils vont se rendre en Égypte, Isaac, un fils qui s'appelle Jacob. Jacob avec sa famille sont rendus à 70 personnes. Grosse famille quand même, n'est-ce pas? Bon, les Québécois, on a connu ça ici au Québec, hein? Des grosses familles de 70. On n'est pas encore rendu une nation. Hein? 70 personnes. On n'est pas encore rendu une nation. Mais c'est une autre étape dans l'accomplissement de cette promesse. Et lorsqu'on va lire le récit, nous voyons la main souveraine de Dieu qui protège. Simplement vous rappeler comment est-ce que Jacob s'est rendu avec sa famille en Égypte. C'est parce que Dieu souverainement avait placé Joseph à l'avance là-bas. Et donc Dieu est en train de pourvoir, de mettre les choses en place pour que sa promesse faite à Abraham puisse s'accomplir. Dans Exode 1:5, on lit donc que la famille de Jacob était au nombre de 70. Maintenant dans Exode 1:7, voici ce qu'on lit, on va l'afficher ici à l'avant. Quelque temps après, quelques années plus tard, plusieurs années plus tard, alors qu'ils sont en Égypte à présent, les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Israël se rend en Égypte, ils sont 70 lorsqu'ils rentrent, grosse famille, s'installent là-bas et ils prospèrent là-bas en Égypte. À un point tel que les Égyptiens commencent à craindre les Israélites. On a vu ça à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. Lorsqu'un peuple conquérant prend le contrôle de territoires et commence à utiliser des populations comme esclaves, comme employés, comme serviteurs, à un certain moment donné, lorsque la population des esclaves devient plus nombreuse que la population des citoyens libres ou de ceux qui dominent, commence à avoir un petit peu d'inquiétude dans le coin. L'Empire romain a vécu ça avec le christianisme, entre autres, où à un certain moment donné, le christianisme qui se répandait massivement parmi les esclaves, parmi les serviteurs, parmi les non-citoyens romains. Les chrétiens devenaient très, très, très nombreux et l'Empire commençait à être nerveux un peu. Parce qu'ils se disaient, ouais, mais si ces gens-là décident de se donner la main puis de s'en prendre au pouvoir, aux autorités qui sont en place, comment est-ce qu'on va faire pour les gérer? Mais c'est ce qui se passe en Égypte. Dans le livre d'Exode, il nous est raconté que cette grande famille de 70 personnes s'est multipliée à un point tel, par la grâce de Dieu, qu'ils deviennent une menace pour les Égyptiens, du moins dans leur perception. Ils commencent à se dire, ouais, attends un petit peu, si on a un envahisseur qui arrive et qui réussit à les soudoyer, à faire une alliance avec eux qui sont partout dans le pays en train de nous servir, qui ont accès absolument à tout puisque ce sont nos serviteurs, nos esclaves, on pourrait être dans le trouble. Mais nous voyons par cette simple multiplication absolument extraordinaire que Dieu est en train, progressivement, d'accomplir sa promesse faite à Abraham. Ils sont rendus nombreux, là. On n'est plus avec Abraham, Isaac, puis, tu sais, ils sont vraiment, vraiment, vraiment nombreux. Est-ce qu'on a une nation? Mais pas encore. Pas une nation, pas une grande nation. Ce sont des esclaves. Ce sont des employés, ce sont des serviteurs. Ce n'est pas une nation en propre. Alors, une prochaine étape dans l'accomplissement de cette prophétie, de cette promesse que Dieu a donnée à Abraham, ça va être la délivrance d'Égypte. Et donc, Dieu, de manière extraordinaire, et je vous encourage à lire le livre d'Exode, Dieu, de manière extraordinaire, intervient dans l'histoire d'Israël pour sortir maintenant ce qui est un peuple nombreux, les sortir de l'esclavage, les sortir d'Égypte, les conduire au désert et éventuellement leur donner une terre, un pays, où ils vont pouvoir s'installer et vivre. On commence à s'approcher d'une nation puisqu'ils commencent à s'installer dans un pays et ils commencent à avoir des droits en propre à être établis comme nation. Naissance d'Isaac, Jacob et sa famille, 70 personnes. Famille de Jacob se multiplie jusqu'à devenir une menace même pour les Égyptiens. Ensuite de ça, Dieu les retire, il les libère de l'esclavage en Égypte pour les conduire vers une terre promise. Dieu est en train d'accomplir sa promesse faite à Abraham. Dieu est en train d'accomplir cette prophétie qu'il avait faite. Et ce petit groupe d'individus est maintenant craint dans les environs, est maintenant craint dans la région. Prochaine étape dans l'accomplissement de la prophétie, Dieu leur donne un roi. Passons Saül, d'accord? Allons tout de suite à David. Dieu leur donne un vrai roi. Et là, on a une nation. Là, on a une nation qui est établie, un roi qui prospère. Ils ont un territoire, ils ont un pays. Ils ne sont plus esclaves en Égypte. Ils ne sont plus qu'un petit peuple très peu nombreux. Mais ils sont une nation en propre. Et sous David et sous Salomon, on voit cette nation-là au summum de sa gloire. Salomon qui est respecté comme un roi puissant et sage. Une nation qui est respectée, qui est visitée par les nations environnantes. Les gens veulent traiter des alliances avec David, avec Salomon son fils. Dieu a pourvu à l'accomplissement de cette promesse qu'il avait donnée à Abraham. N'est-ce pas? Dieu a pourvu et il a accompli sa promesse faite à Abraham. Il lui a dit, « De toi, une nation puissante viendra. » Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Pourtant, ce qui est accompli est encore en train de pointer vers l'avenir. Ce qui est accompli ici est encore en train de pointer vers l'avenir. Et Dieu va relancer, vous vous rappelez mon caillou du début, Dieu va relancer la prophétie vers l'avenir en donnant une nouvelle promesse à David. Et je vais vous le lire dans 2 Samuel 7. Vous pouvez les prendre en note puis prendre le temps d'aller les lire pour méditer ces choses-là plus tard. Dans 2 Samuel chapitre 7, je vais vous lire les versets 12 à 16. D'accord? Vous avez juste un verset projeté ici à l'avant. Dieu donne une promesse au roi David qu'il a établi. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne, Salomon. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, le temple qu'il a bâti à Jérusalem, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume, pour toujours. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Puis là, Dieu donne cette promesse à David. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Dieu avait donné une promesse à Abraham. Il avait promis à Abraham que de lui naîtrait une grande nation, de sa descendance. Et Dieu a souverainement protégé la descendance d'Abraham, les conduisant en Égypte, les faisant sortir d'Égypte, les conduisant vers la terre promise, les établissant, leur donnant un roi qui leur a donné cette renommée vraiment d'être cette nation. Est-ce que tout est terminé là? Est-ce que tout s'arrête là? On n'est pas rendu à Christ. Moi, je vais vous parler de Noël. On n'est pas rendu à la naissance de Jésus-Christ encore. Maintenant, Dieu donne une nouvelle promesse à David, au roi David, et lui dit, « Ton trône, David, sera éternel. » Et donc, ce qui a été accompli jusqu'à présent nous pointe, nous pousse encore vers l'avenir, vers un plus grand accomplissement. Et là, vraiment, on a l'impression que Dieu perd complètement le contrôle. Vous savez, lorsque vous lisez la suite des chapitres, c'est « Oh! Ah, il t'a pris soin d'Israël, je comprends, là, grosse nation, oui, ok, c'est beau. Ton trône sera éternel. » Ouh! Si vous connaissez le récit, là, c'est pas Jojo, hein? Vous dites « Ok, David, Salomon, on étire encore un peu, puis là, pouf! » C'est la débandade totale. La zizanie là-dedans, mes amis, ça s'entre-déchire. Le royaume se divise, on s'attaque. Tout ça va terminer avec un exil, des déportations, ils vont être conquis. La nation est défaite, ruinée. Quelques temps plus tard, quelques exilés vont revenir pour restaurer. On a vu la série dans Néhémie cette année. Et puis on va reconstruire tranquillement, on va essayer de rétablir des choses. Mais on entend... dans la bouche des anciens, dans Néhémie, dans Esdras, on entend les anciens qui disent « Oh, dans le temps de Salomon, le temple, ça c'était quelque chose. » Ils voient le nouveau temple et ils disent « Oh, moi je me rappelle du temple de Salomon. » Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Il a donné une prophétie, il a donné une promesse, il a dit « On s'en va, on continue, c'est pas terminé. » Et rappelez-vous, dans la promesse qui a été donnée à Abraham, un des éléments, c'est qu'à travers toi, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Pas rendu là, là. Pas rendu là. Les nations environnantes sont en train de se partager l'or du temple, c'est vrai. Je pense pas que c'était ça l'idée, là. Je pense pas que c'était ça l'idée. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Dieu souverainement ramène quelques exilés qui vont reconstruire, parce qu'on pointe toujours vers l'avenir. L'Ancien Testament se termine. On termine tout le livre de l'Ancien Testament, tous les livres de l'Ancien Testament. Est-ce que la prophétie, la promesse qui avait été donnée à Abraham est accomplie? Pourtant, il y a eu plusieurs accomplissements. Cette nation puissante, on l'a vu. On a vu Dieu dans sa souveraineté établir cette nation. Mais lorsqu'on termine le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie se termine, la prophétie n'est pas accomplie. La promesse n'est pas accomplie. Au contraire, on dirait qu'on est en train de perdre du terrain. Ma pierre, est-ce qu'elle va couler bientôt? Elle a fait son dernier rebond, c'est ça? Puis là, elle va caler. Puis vient Jésus-Christ. Puis vient Jésus-Christ. Si l'Ancien Testament est le livre des Juifs, la Bible au complet, Ancien et Nouveau Testament, est le livre des chrétiens. Puis vient Jésus-Christ. Et je vais vous lire dans deux évangiles, si vous pouvez tourner rapidement avec moi dans Matthieu 1:1. Alors qu'Israël est sous le règne, la domination romaine, c'est certainement pas une grande nation à ce point ici. Ils ont très peu de droits, les droits qu'on veut bien leur laisser, ça s'arrête là. L'évangéliste Matthieu, qui écrit l'évangile selon Matthieu, dit dans Matthieu 1:1, il commence, voici comment il commence son livre, son récit pour nous raconter ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Dans Matthieu 1:1, il dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Puis là, il commence avec Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Intéressant, hein? Si vous allez avec les bons que je vous parlais tout à l'heure, Matthieu est en train d'écrire, puis il dit, voici l'histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire de Jésus, qui est en fait le descendant de David, qui est en fait le descendant d'Abraham. Vous voyez mes pierres qui sortent? Et il est en train lui-même de dire, regardez ce qui s'accomplit en Jésus-Christ. Le fils de la prophétie, faite à Abraham, c'est David. Le fils de la promesse faite à Abraham, de la promesse faite à David, c'est Jésus-Christ. Tournez dans Luc, dans l'Évangile selon Luc, simplement pour vous montrer comment les auteurs du Nouveau Testament comprenaient l'accomplissement de ces prophéties qui avaient été faites, qui avaient été données, ces promesses qui avaient été données à Abraham et qui avaient été données aussi à David. Alors dans Luc, au chapitre 1, versets 31 à 33. Voici les paroles que prononce l'ange Gabriel lorsqu'il apparaît à Marie. D'accord? Si vous êtes familier avec le récit de la naissance, avec un ange qui vient annoncer la naissance. Hein? Fait que l'ange Gabriel apparaît à Marie et voici ce qu'il lui annonce. Parce qu'il dit là, tu vas vivre une expérience assez unique, mon ami. Fait que on va te préparer. Okay? On va juste te mettre en contexte. Et voici ce qu'il dit. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Intéressant, hein? L'ange est au courant. Que Jésus-Christ est l'héritier de la promesse qui avait été faite à David, son père, on s'entend, son arrière-grand-père, son père, d'accord? Et c'est lui qui va régner éternellement. C'est lui qui va régner. Alors voyez-vous, cette promesse qui avait été donnée premièrement à Abraham, cette promesse qui avait été donnée à David, s'accomplit progressivement. Tu arrives à un moment dans l'histoire et tu te dis, boum, c'est rendu, c'est accompli. Israël est installé, ils sont établis. Non, ça fait juste pointer vers l'avenir, un accomplissement plus grand encore. Puis là, on a l'impression qu'on perd le momentum parce que la nation se divise. Ils partent en exil, en déportation. On a l'impression que Dieu a échappé une balle, il se passe quelque chose, ça ne marchera pas. Il avait promis de quoi, mais bon, non. Jésus arrive. Et Jésus est cette nouvelle étape dans l'accomplissement de la promesse. Et c'est ça qu'on célèbre à Noël. À Noël, ce que nous célébrons, c'est la venue de celui qui vient accomplir ses promesses, ses prophéties faites. Alors, quand Jésus arrive, ma pierre qui commençait, on dirait, à perdre du rythme, à perdre des bonds, par une intervention surnaturelle de Dieu, reprend du kick puis repart. Vitesse grand V. Et là, simplement dans le ministère de Jésus, avec ce qu'il apporte, avec ce qu'il accomplit à la croix, on vient de relancer l'accomplissement de cette prophétie-là de manière absolument extraordinaire. Et l'histoire de l'humanité ne sera plus jamais la même. Cette petite nation, je ne sais pas si on peut aller tout de suite à la map monde, à la fin complètement, et juste pour donner une idée, je ne sais pas si vous voyez le petit rond rouge à quelque part, il n'est pas gros, hein? Bien, avec Jésus, on passe de petit territoire, tout petit territoire, tout cela, pouf, et on n'a pas terminé, on est encore en train de répandre l'évangile de Jésus-Christ, d'accord? Mais l'histoire de l'humanité ne sera plus la même. Ça, c'est clair. L'histoire de l'humanité est profondément bouleversée par la venue de Jésus-Christ. Et là, on découvre que l'accomplissement de cette prophétie-là, de ces promesses-là, prennent une autre dimension. Les choses changent un peu. Alors qu'on aurait pu croire que tout était en train de ralentir, tout est relancé à vitesse grand V, et l'humanité, à travers les siècles, va être profondément bouleversée par le message de l'Évangile. La promesse faite à Abraham s'est pas accomplie dans la longue période de l'Ancien Testament. Pourtant, elle a eu plusieurs accomplissements progressifs, souvent même absolument fantastiques, impressionnants, mais ils pointaient constamment vers l'avenir où on trouverait un plus grand accomplissement encore. Et lorsque Jésus-Christ arrive, on découvre à travers le Nouveau Testament et on peut faire l'observation que cette prophétie va s'accomplir de manière plus grande encore. Écoutez bien ceci. Quand Jésus arrive, tout n'est pas terminé. C'est Jésus. Pour les chrétiens, c'est Emmanuel. Hein? C'est Dieu parmi nous. Comme, wow, ça s'arrête là, c'est génial. Pourtant, si vous vous rappelez bien les paroles du Seigneur, le Seigneur Jésus, il dit, « Moi, j'ai fait des grandes choses, mais attendez de voir ce que vous, vous allez faire. » Non, mais c'est Jésus. C'est Dieu fait homme sur la terre. Là. C'est vrai, là. Est-ce que ça s'est arrêté là? Est-ce que tout était là? Bien, le ministère de Jésus, excusez avec ma carte, le ministère de Jésus a été contenu dans ce tout petit territoire. Tout petit territoire. Puis, il demeure encore beaucoup de choses à s'accomplir. Alors, lorsque Jésus vient, la prophétie s'accomplit à une grande vitesse et pourtant pointe encore à quelque chose de plus grand même que sa venue. Un accomplissement plus grand encore que ce qui s'est passé à ce moment-là. Je vais vous lire dans le livre de Galates. D'accord? La lettre aux Galatiens, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite quelques années plus tard. Et ça va nous aider à comprendre comment cette prophétie s'accomplit. Dans Galates, au chapitre 3, verset 25, voici ce que l'apôtre Paul va écrire quelques années plus tard, alors que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est en train de se répandre dans l'Empire romain. Galates 3, 25 à 29, il dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Écoutez bien la phrase suivante. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » La promesse qui avait été donnée à Abraham de faire naître de lui une grande nation semblait s'être accomplie lorsqu'Israël a enfin eu son territoire, son pays, a eu un roi, a été établi. Mais la promesse était plus grande que ça. La promesse était que toutes les nations de la terre seraient bénies en Abraham. Voici l'histoire de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Et David est l'héritier de cette promesse, Jésus est l'héritier de cette promesse qui avait été donnée à Abraham. Et Paul nous dit ici que tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ sont fils d'Abraham à leur tour par la foi. Et là, on commence à découvrir, et c'est ça le mystère de l'Église. Paul parle du mystère de l'Église. C'est ça le mystère de l'Église. C'est que celui qui place sa foi en Jésus-Christ, bien qu'il ne soit pas descendant physique d'Abraham, devient par la foi fils d'Abraham, véritablement héritier de la promesse faite à Abraham. Et Paul dit, maintenant, toutes les nations de la terre peuvent être bénies en Jésus-Christ et l'accomplissement de la promesse faite à Abraham peut s'accomplir. Il dit, chacun d'entre vous qui placez votre foi en Jésus-Christ, vous êtes fils d'Abraham. Vous êtes héritier de la promesse qui a été faite à Abraham. Puis, il y avait des dimensions de la promesse qui avaient été faites à, et simplement pour vous montrer comment Jésus lui-même voyait ça. Songez à ça juste un instant. Si moi je suis héritier de la promesse qui a été faite à Abraham, voici ce que Dieu a dit à Abraham. Il a dit, toi tu vas être mon serviteur, moi je vais être ton Dieu. Je serai ton Dieu, Abraham. Moi, si je suis un héritier de la promesse qui a été faite à Abraham, l'Éternel, Dieu, celui qui un jour était devant Abraham, me dit à moi, je suis ton Dieu, Yannick. Comme j'ai été le Dieu d'Abraham, qui a vécu il y a des milliers d'années, je suis ton Dieu, Yannick. Parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Je suis ton Dieu. Dieu avait donné une promesse à travers ça. Ça impliquait qu'ils allaient avoir un pays, qu'ils allaient avoir une terre, n'est-ce pas? Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 5. C'est vraiment intéressant. Dans Matthieu 5, 5, le sermon sur la montagne, Jésus dit, « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » Hein? Une nation. Ils vont hériter la terre. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a une vision de la part de Dieu. Là, on est rendu au dernier livre de la Bible, d'accord? L'apôtre Jean, dans une vision, voit des prophéties de l'Ancien Testament s'accomplir qui nous parlent de cette terre. Je vais le lire dans un instant. Mais d'autres prophètes en avaient parlé aussi. Si vous allez lire Ésaïe, vous allez voir cette annonce des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Voici ce que l'apôtre Jean dit dans Apocalypse 21, verset 1. Il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Quelle forme va prendre cet accomplissement-là? J'ai hâte d'être là pour le voir. Mais ce qui est clair, c'est que lorsque j'arrive à la toute fin du livre de l'Apocalypse, j'ai encore cette promesse faite à Abraham de donner à sa descendance en lui, de former une nation, de bénir tous les hommes de la terre, toutes les nations de la terre, éventuellement qui croiraient, de les bénir, de leur donner une nation. J'ai encore cette promesse-là que je retrouve avec ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Et cette fois-ci, si on peut aller retourner à la carte, la promesse qui est donnée, c'est pas d'avoir une terre promise, minuscule au Moyen-Orient. La promesse qui est donnée, c'est toute la terre. Lorsque je replace ça dans le contexte du mandat que Jésus a donné à ses disciples, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il dit maintenant, allez sur toute la terre et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, toutes les nations de la terre peuvent être bénies et on voit la promesse qui avait été donnée à Abraham s'accomplir. Et jusqu'à ce jour, des chrétiens vont par toute la terre, annoncent la venue de Jésus-Christ et des millions de personnes placent leur foi en Jésus-Christ. Cette année à Noël, il y a des territoires, il y a des pays, il y a des endroits, il y a des foyers où l'on ne célébrait pas Noël parce que ces territoires-là étaient complètement fermés à l'Évangile. L'Évangile est en train d'entrer en Chine actuellement. L'Évangile est en train d'entrer en Asie actuellement comme jamais dans l'histoire de l'humanité. L'Évangile est en train de se rendre là. Toutes les nations de la terre sont atteintes progressivement par l'Évangile. Ce n'est pas tout le monde qui va croire. Ce n'est pas tout le monde qui va croire en Jésus-Christ. Mais tout le monde a l'opportunité, entend. On va et on répand l'Évangile. On annonce l'Évangile de Jésus-Christ sur tous les territoires de la terre. Voyez-vous, c'est ça qu'on fête à Noël. Ce qu'on fête à Noël avec la venue de Jésus-Christ, c'est pas simplement la naissance d'un sauveur, c'est l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Et lorsque j'étais en train de lire ça et j'étais en train d'étudier ça cette semaine, ce que ça produisait pour ma foi personnellement, c'est que ça me sortait de mon histoire quotidienne, de mes petits combats quotidiens, de mes petites luttes quotidiennes, de ma petite foi à moi. Puis il y a des matins, puis il y a des journées, puis il y a des semaines, puis des fois il y a des mois où on a l'impression que c'est ma petite foi à moi à laquelle j'essaie de m'accrocher pour réussir à passer à travers des épreuves de la journée. Puis, OK, Seigneur, il y a sûrement quelque chose dans ta parole pour que je puisse faire un autre 24 heures avec toi encore. Non? C'est notre petite foi avec notre petite vie, puis notre petit Dieu. Puis on essaie de passer à travers tout ça. Et pour moi, placer le contexte de la naissance de Jésus-Christ, dans l'accomplissement de cette promesse qui avait été donnée à Abraham, qui s'est accomplie progressivement, mais qui pointait toujours vers un accomplissement plus grand. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ, où là, l'Évangile, pouf, éclate. Et là, il y a des gens comme vous et moi, qui ne sommes pas juifs de sang, qui devenons héritiers de la promesse. Et c'est pas terminé. Il a été fidèle pour accomplir ses promesses jusque-là. Il y a quelques promesses encore qu'il nous doit. Son retour. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, je vais revenir vous chercher, j'attends encore ça. Voyez-vous, la venue de Jésus-Christ pointait encore vers l'avenir. Et ça place ma foi personnelle, individuelle, dans les desseins, dans le contexte des desseins éternels de Dieu. Si vous êtes chrétien, vous n'avez pas placé votre foi dans une religion comme toutes les religions de la terre. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas en train de suivre un gars qui prêche en avant parce que j'ai besoin d'être motivé ce matin. Si vous êtes chrétien, vous n'avez pas été simplement sauvé de votre petite misère personnelle. Si vous êtes chrétien, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, vous a révélé ses desseins éternels d'accomplir la promesse qui avait été faite à Abraham, de bénir toutes les nations de la terre en lui, pour la gloire de Dieu. Et vous entrez dans cette histoire-là qui, depuis des millénaires, est en train de s'accomplir jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ça, être un chrétien, un disciple de Jésus-Christ. C'est être un héritier de la promesse qui avait été faite à Abraham. Une autre bénédiction que je tire pour ma foi personnelle, d'étudier ces choses-là, c'est que j'y vois le caractère de Dieu. Qui est Dieu dans son caractère, dans sa personne? Si tu viens me voir tantôt et tu me dis, Yannick, je te promets, je te donne 1000$. Ma première pensée, je ne veux pas être méchant avec vous, mais ça va être, je vais y croire quand je vais le voir. Tu es juste un homme, hein? Moi aussi. Mais quand Dieu promet, Dieu fait. Quand Dieu annonce, Dieu accomplit. Parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas se renier lui-même. Et lorsque j'étudie l'accomplissement progressif de cette promesse faite à Abraham, j'en tire un bénéfice personnel pour ma foi. Quelles sont les promesses que Jésus-Christ nous a données à nous comme chrétiens, que Dieu nous a données dans sa parole? Il nous a promis qu'il reviendrait nous chercher. Ce n'est pas un petit pitch de vente pour nous encourager à persévérer jusqu'à la fin. C'est une promesse de Dieu. Il nous a promis qu'il nous accompagnerait jusqu'à la fin, que son esprit serait avec nous. Ce n'est pas pour nous motiver dans les moments difficiles où on ne le verrait pas, là. Il nous informe d'une réalité parce que lorsqu'il dit, il le fait et son esprit est avec nous. Amen. Il a promis que toutes les nations de la terre seraient bénies. Derrière ça, il y a une promesse de bénédiction sur notre effort d'annoncer l'Évangile. Non? Est-ce que les Québécois, Dieu les aurait oubliés? Ils ne feraient pas partie des nations à atteindre avec l'Évangile. Je pense pas. Ils faisaient partie des gens que Dieu voulait atteindre avec l'Évangile. L'Occident, qui est tellement fermé à l'Évangile, Dieu voulait l'atteindre avec l'Évangile. Voyez-vous, ces promesses que Dieu nous a données, Dieu va les accomplir comme il accomplit cette promesse qu'il a donnée par un beau matin à Abraham pendant qu'il était en train de faire cuire ses toasts le matin. Ça a pris des milliers d'années à s'accomplir. Ce n'est pas terminé encore de s'accomplir, mais on voit la puissance de Dieu dans son accomplissement progressif. C'est ça l'histoire de Noël. En terminant, j'aimerais ça vous encourager cette année à raconter cette histoire-là à vos enfants. C'est bien la crèche avec le petit Jésus qui est dans la crèche, c'est bien. Mais c'est tellement plus riche que ça, Noël. C'est tellement plus grand que ça. Vous ne voulez pas que vos enfants n'aient que la crèche pour louer Jésus. Vous voulez que vos enfants aient les desseins, le plan de Dieu dans leur esprit pour louer Jésus-Christ. Amen. Je veux vous encourager aussi pendant la période des fêtes à raconter cette histoire-là. Les gens autour de vous ne la connaissent pas. Pour eux, c'est le petit Jésus tout au mieux. On commence à sortir de plus en plus de disques où on fête les fêtes. C'est le temps des fêtes. J'écoutais un chanteur, il a sorti un disque cette année, il a enlevé tout ça parce qu'il dit, bon, c'était bon pour les autres générations, moi je ne crois plus à ça. Alors il a refait des chants complètement nouveaux pour que ses enfants aient du bon temps dans le temps des fêtes. Puis ça peut nous choquer. Ça peut nous choquer, c'est vrai, parce qu'on était dans un pays où Noël avait son sens. Mais est-ce que c'est sa mission à lui d'annoncer Noël? Il ne connaît pas Jésus-Christ. Est-ce que vraiment j'ai à être choqué de voir quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ ne pas vouloir parler de Jésus-Christ? Non, Jésus-Christ est un scandale pour celui qui ne le connaît pas. C'est notre mission à nous de raconter cette histoire-là pendant les fêtes. Alors, je vais vous lancer le défi de ne pas tomber dans le panneau, de laisser simplement Noël devenir un événement séculier et commercial. C'est notre job à nous d'aller raconter cette histoire merveilleuse dans nos familles. Lorsqu'on va aller dans les parties de famille, puis des gens vont vous dire, est-ce que tu as du bon temps pendant les fêtes? Est-ce que tu te reposes? Si tu savais, c'est le plus beau temps de l'année pour moi. Ça, puis Pâques, là, c'est le top. Pas parce que je suis en congé, parce que toute ma vie prend son sens ici avec la naissance de Jésus. Toute ma vie prend son sens avec sa crucifixion, sa résurrection. Je vais vous donner comme défi d'inviter des gens vendredi prochain. On va prendre une petite méditation, on va annoncer Noël avec son vrai sens. De venir samedi prochain donner vos cadeaux et d'avoir plus en tête que de dire, je vais aider quelqu'un qui est dans le besoin, puis il va avoir un enfant qui va avoir un sourire sur les lèvres. Moi, j'aimerais ça voir une âme qui se remplit de reconnaissance. Parce qu'elle reconnaît que le plus beau cadeau qu'elle pouvait recevoir, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Amen. On va prier ensemble. Notre Dieu, tu es puissant. Tu es grand, Seigneur. Tes desseins sont parfaits. Cette promesse que tu avais faite à Abraham de faire de lui une grande nation et à travers lui, en lui, de bénir toutes les nations de la terre. Tu l'as accompli, Seigneur, à plusieurs reprises, progressivement, jusqu'à ce qu'on arrive à la naissance de Jésus-Christ. Et encore à ce jour, Seigneur, nous attendons l'accomplissement entier de cette promesse, Seigneur, de cette prophétie. Mais tu as été fidèle, Seigneur. Tu as été fidèle à travers les siècles, fidèle envers Israël malgré toutes ses infidélités, fidèle à tes desseins, à tes plans, à ta parole, Seigneur. Tu as été fidèle jusqu'à ce que Christ vienne, naisse, meure sur cette croix, ressuscite d'entre les morts pour mettre au monde une nation, un peuple spirituel. De toutes les nations de la terre, des millions de personnes, depuis ces 2000 ans où on annonce la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, des millions de personnes sont entrées dans cette famille et sont devenues héritiers de la promesse faite à Abraham. Tu es fidèle, ô mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es fidèle et le seras jusqu'à ton retour. Tu es fidèle et resteras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'élever parce que tu es venu sur cette terre. Tu t'es humilié, Seigneur. Tu t'es humilié afin d'accomplir tes desseins, ta prophétie, ta promesse faite à Abraham, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
On va se lever ensemble.